Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et ce soir, dans votre émission, nous parlerons de la RDC avec cette promesse de la MONUSCO de revoir sa stratégie pour mieux protéger les civils de l'Est de la RDC. Ces civils manifestent depuis la semaine dernière et demandent le départ de la force onusienne. Avant d'en débattre, nous vous proposons d'abord d'écouter notre invité Décryptage.
Dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Aliou Goloko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste sportif, officier média CAF et expert média de la CAF, la Confédération africaine de football. 12 grandes équipes européennes de football annoncent vouloir lancer une supercoupe qui va remplacer la Ligue des champions. Quelles sont les différences au niveau des retombées financières pour ces clubs entre la Super League et la Ligue des champions?
Mais tout le monde sait que derrière, c'est une affaire de riches. C'est-à-dire ces clubs qui sont les plus riches du football, qui veulent encore plus d'argent et qui, pour cela, ont décidé de créer leur propre ligue. Une ligue dans laquelle chaque club engagé pourrait encaisser dès le début 425 millions de dollars. C'est à peu près l'équivalent de leur budget annuel. Imaginez-vous donc qu'ils encaissent cela juste sur une compétition. Sur les autres compétitions, ils se feront encore plus d'argent. Sauf que derrière cette annonce, il y a eu un rejet quasi unanime de toutes les institutions légales du football, c'est-à-dire l'UEFA et la FIFA, bien entendu. Donc c'est une décision qui a été incompréhensible.
Et impopulaire, manifestement.
Les riches. Ouais, elle est impopulaire, elle est très impopulaire d'ailleurs. Elle vise à enrichir ces clubs-là au détriment des autres nations. Mais au-delà de tout, je pense, et ça c'est mon avis, elle porte une vraie atteinte à la démocratie du football. Le football est le sport le plus démocratique qui soit, le plus populaire qui soit. Vouloir le renfermer entre une ligue uniquement de clubs anciens et fortunés, c'est peut-être oublier les autres clubs.
Ce refus d'accepter de nouveaux clubs qui a poussé le patron du Bayern à renoncer à participer à cette ligue, il a déclaré qu'il n'acceptera pas une compétition qui n'admet pas de nouveaux clubs.
Oui, tout à fait, parce que déjà, il faut penser aussi à la santé des joueurs. Créer une nouvelle compétition, c'est encore plus fatiguer les joueurs. Ils fonctionnent avec 60 matchs par saison. Là, on parlera d'à peu près 80 matchs par saison pour les joueurs. Ce n'est pas des machines. Ça pourrait avoir un impact négatif sur leur état de santé. Mais au-delà de ça, l'Allemagne est un des pays où ce n'est pas le taux d'argent qui compte, parce qu'il y a le salary cap, c'est-à-dire et un plafond de salaire existe déjà dans le football allemand, en tout cas dans certains clubs, le Bayern notamment. Ils ne font pas de folie sur les marchés. Donc, eux, ils sont bien placés que quiconque pour faire comprendre aux gens qu'ils ils ne font pas du foot uniquement pour de l'argent.
L'UEFA en colère menace. Les joueurs des équipes qui évolueront dans cette Super League seront bannis de la Coupe du Monde, de même que de l'Euro. Les clubs concernés aussi. Est-ce que ces annonces sont suffisamment dissuasives pour pousser ces 12 clubs à renoncer à leur projet?
Mais non. Par contre, je pense que cette annonce de l'UEFA n'est pas forcément pertinente, parce que c'est une décision. Si elle est attaquée en justice, elle pourrait tomber. Parce que cette décision n'a aucune valeur juridique. On ne peut pas empêcher à un joueur, parce qu'il a joué dans un autre club ou dans une autre compétition, de ne plus jouer pour sa sélection nationale. Je pense qu'il faut trouver surtout un moyen de discuter avec ces clubs-là pour les ramener à la raison et les faire intégrer le landerme politique mondial. Mais ne pas aller sur cette base de sanctions-là, parce que sur cette sanction, il faut avoir un fondement juridique, et je pense qu'il n'y a aucun fondement juridique qui leur donne ce droit-là, et ce serait un combat perdu d'avance.
Mais est-ce que ça ne met pas aussi les joueurs dans une situation difficile?
Si, si, parce qu'ils seront déjà sous pression avec leurs clubs, qui sont leurs employeurs, mais également avec leur sélection nationale, où les opinions publiques ne comprendraient pas pourquoi ils ne vont pas au bras de fer contre leur club pour venir défendre les couleurs de leur pays. Et c'est en cela que je persiste à dire que cette décision ne pourrait pas avoir de fondement juridique et qu'elle ne pourrait pas passer.
Est-ce qu'il y a un aspect politique dans cette crise-là qui oppose ces grands clubs à l'UEFA? Parce qu'on a entendu le Premier ministre britannique Boris Johnson dire qu'il va tout faire pour que le projet de ces clubs échoue.
Ben oui, c'est pas seulement Boris Johnson qui s'est prononcé. Emmanuel Macron également, président de la République française, s'est prononcé sur la question. Donc, cette décision est en train de prendre une dimension politique.
Est-ce que finalement, ce n'est peut-être pas par là que va venir la solution?
Oui, ça pourrait venir de là-bas, sauf que les tenanciers du football mondial disent qu'il faut tout le temps tenir à l'écart la politique autant pour moi du football. Nous, on est dans une situation où les hommes politiques prennent fait et cause pour la situation et auront leur mot à dire parce que c'est les gens qui administrent les pays et le football se joue dans ce pays-là.
Quelle incidence cette Super League envisagée pourrait avoir sur le football ou les footballeurs africains?
Les incidences peuvent être aussi bien positives que négatives. Si positives dans le sens où s'il y a des quotas qui sont payés à des joueurs qui joueront provenant des pays, de certains pays africains et qu'on doit leur payer des ristournes par rapport à ça, comme le fait la Coupe du Monde, quand des joueurs de certains clubs jouent une Coupe du Monde, il y a de l'argent qui est reversé à leurs clubs respectifs. Si ça se fait sur la Super League, ça pourrait être des entrées de fonds pour les équipes africaines, les sélections nationales africaines en tout cas. Et secondo, s'il y a des transferts à ce niveau-là, je pense que les montants de transferts vont encore augmenter. Les équipes africaines qui auront transféré des joueurs dans cette Super League auront encore plus d'argent parce que c'est des montants qui vont être colossaux. Mais négatif dans le sens qu'il y aura encore plus de compétition, il y aura encore plus d'influence et plus de pression sur les joueurs africains pour qu'ils ne participent pas aux matchs de leur sélection nationale. Et peut-être ça va encore plus fermer cette Super League à des talents africains parce qu'ils ne sont pas également en grand nombre dans les différents clubs qui jouent cette compétition-là.
Aliou Goloko, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Journaliste sportif, officier média CAF et expert média de la CAF, la Confédération africaine de football.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue si vous nous rejoignez et nous allons à présent ouvrir notre débat sur la RDC pour parler des promesses faites par la MONUSCO, la mission onusienne, d'améliorer sa réponse face à la demande et aux protestations des populations de l'Est du pays qui continuent de réclamer le départ des casques bleus donc. Et nous en parlons avec trois invités, Ghislain Mouiwa, militant du mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha à Goma. Monsieur Mouiwa, bonsoir. Allô? Je ne sais pas si M. Mouiwa m'entend, mais nous avons également Jolino Makilele, ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias. Il est également porte-parole du gouvernement congolais. Il sera en ligne avec nous de Kinshasa. Et également de la capitale congolaise, Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO. Monsieur Gilman, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et en attendant de retrouver le porte-parole du gouvernement congolais, nous allons évidemment commencer avec M. Mouiwa, qui est dans l'est de la RDC. En quelques mots, M. Mouiwa, quel est le quotidien déjà d'un habitant de la région de Goma? Non, on a perdu M. Mouiwa, me fait-on signe. J'aurais bien voulu écouter d'abord l'habitant de Goma pour nous faire un état des lieux avant d'en arriver, M. Gilman, à cet aveu dont je parlais des responsables de la MONUSCO. Vous, quelle leçon avez-vous tiré de ces protestations qui ont commencé dans l'est de la RDC depuis le 5 avril à l'appel de la société civile et qui n'ont d'ailleurs pas faibli?
Vous savez, c'est malheureusement pas la première fois qu'on est confronté à ce genre de problème. Il y a un an et demi, il y avait eu aussi des manifestations importantes, encore plus violentes en réalité, contre la MONUSCO. Nous disons toujours la même chose. Chaque Congolais est libre de critiquer la MONUSCO, chaque Congolais est libre d'estimer que nous ne remplissons pas notre rôle et même de demander au gouvernement notre départ. Mais tout cela doit se faire de manière pacifique. Nous ne cherchons pas à nous défausser de nos responsabilités. Nous faisons face à des difficultés énormes pour lutter contre les ADF qui ont été repoussés des zones urbaines principales de la zone, mais qui continuent des massacres qui se sont même intensifiés ces derniers mois dans des zones extrêmement difficiles d'accès, extrêmement éloignées dans le Rouwenouri, dans le sud du territoire de l'Irumu, donc dans des zones de jungle. Et donc notre soutien à l'armée congolaise, eh bien, on est rendu évidemment plus difficile. Le travail de l'armée congolaise aussi en est rendu plus difficile. Donc on n'essaye pas de minimiser nos difficultés, on n'essaye pas de minimiser la souffrance que la population vit tous les jours dans cette zone, mais nous disons travaillons ensemble parce que il ne nous semble pas que c'est que le soutien de la MONUSCO ou sans le soutien de la MONUSCO les choses iraient mieux, bien au contraire. L'armée congolaise a lancé des opérations courageuses et fait de son mieux, mais ils ont des difficultés au niveau logistique, des difficultés au niveau de l'approvisionnement des troupes, et pour tout ça, la MONUSCO soutient l'armée congolaise. Il faut bien comprendre que c'est l'armée congolaise elle-même qui est en première ligne et que c'est l'armée congolaise qui est elle-même la première responsable de la protection des civils. Merci. Donc nous, évidemment, on fait tout ce qu'on peut, pour les soutenir, mais il y a un travail bien au-delà du militaire à faire dans cette région, parce qu'il y a aussi des problèmes fondamentaux qui n'en sont pas réglés, d'exploitation illégale des ressources, de sources de financement des ADF qui ne sont pas asséchées, de complicité aussi dont les ADF continuent de bénéficier. Donc il y a tout un travail à faire qui va au-delà des militaires, et c'est ce qu'on essaye de faire et de s'engager avec les autorités qui tous les jours nous demandent, que ce soit au niveau local, provincial ou national, les autorités tous les jours nous demandent de continuer à les soutenir.
Merci,
et donc
monsieur.
C'est ce que nous allons continuer à faire.
Merci monsieur Gilman. Et nous avons retrouvé monsieur Mouiwa qui est de la Lutia Goma. Monsieur Mouiwa, bonsoir, vous m'entendez? Allô?
Ah oui, bonsoir.
Oui,
bonsoir, je vous écoute.
Je vous demandais de nous dire brièvement à quoi ressemble le quotidien d'un habitant de Goma. Évidemment, face ce défi sécuritaire. Hein.
Ouais, merci beaucoup pour l'invitation et pour les débats. Alors, à Goma, nous vivons en insécurité parce que déjà il y a des tueries qui se perpétuent chaque jour dans les différents quartiers de la ville. Et donc, les gens se réveillent le matin et ils ont la peur au ventre et ils se demandent est-ce qu'on va arriver le soir. Et quand on dort, on se pose aussi la question est-ce qu'on va se réveiller le matin. Et c'est ça la situation chaque jour. Et on apprend qu'il y a des tirs ou des balles dans tel quartier, qu'on a tué de personnes, qu'on a pillé telle personne. Et ça, c'est tellement en Goma. Et pour le moment, par exemple, aujourd'hui, on voit, par exemple, il y a un quartier où la population se déplace parce qu'il y a eu des échafaudés, il y a eu beaucoup de problèmes entre la population et des forces de l'ordre, ainsi de suite. Donc, on comprend en tout cas que le niveau de l'insécurité est élevé. Et ça, c'est peut-être à Goma seulement. Si on va à Beni, à Rutshuru, à Masisi, c'est encore plus grave.
C'est-à-dire les populations vivent constamment sur le qui-vive. L'inquiétude, l'incertitude sont permanentes.
Oui, bien sûr. À Beni, par exemple, on apprend chaque jour qu'il y a des frères, des sœurs, des familiers qui sont tués ou des voisins qui sont tués. Et on se pose la question, le prochain, ça sera qui? Et ça fait maintenant plus de 6 ans que nous vivons dans cette situation. Et donc, les citoyens sont fatigués, les gens, ils se posent des questions finalement. Est-ce que nous avons des autorités? Est-ce que nous avons des gens qui pensent à pouvoir amener des solutions à tout ce
donc, on comprend que c'est le ras-le-bol hein, qui a donc conduit la société civile à appeler à ces 10 jours de mobilisation. Quel en est l'objectif, M. Mouiwa?
Alors, en fait, pour nous, quand nous avons fait appel aux manifestations, c'est à partir du 5 de ce mois, parce que nous avons compris que la MONUSCO, elle continue à être inactive au-delà de toutes les actions que nous avons menées à 2019 ou à 2020, où nous avons encore une fois organisé des manifestations pour exiger le départ de la MONUSCO, elle n'a pas corrigé ses erreurs, elle est restée inactive, la situation sur le terrain s'est empirée, on a continué à tuer nos amis, nos frères, et on s'est dit, mais finalement, il faut demander à cette MONUSCO de partir, parce qu'on ne voit pas en tout cas le rôle.
Merci.
De sa présence. On ne comprend pas pourquoi elle doit continuer à rester.
Merci, monsieur Mouiwa.
Donc là, c'était premièrement notre revendication, mais également pour dire à notre gouvernement que nous sommes fatigués de ce qui se passe et on ne peut pas, il doit nous permettre que nous ayons la paix, parce que ce que nous revendiquons, c'est exactement la paix. La finalité de toutes nos manifestations, c'est de voir la paix à Beni, la paix à Rutshuru,
merci.
Et la paix à Sahel.
Merci, M. Mouiwa. Je pense que M. le porte-parole du gouvernement est bien en ligne cette fois. M. Makelele, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Ministre d'État donc et porte-parole du gouvernement, comment réagissez-vous hein, à ce quotidien plutôt fait d'angoisse permanente décrit par le militant de la Lucha, M. Mouyoua?
Oui, madame. D'abord, je dois dire ici que le gouvernement partage naturellement les préoccupations de la population, puisqu'il a pour devoir de protéger sa population. Et nous avons rappelé également que la mission des Nations Unies est co-signataire pour le fonctionnement d'un accord de siège, un accord de coopération connu sous le sigle SOFA. Et depuis 1999, et il s'agit pour l'essentiel de la protection des populations civiles. Or, dans les faits, effectivement, nos populations constatent que les atrocités dont ils sont l'objet, elles sont l'objet, persistent. Et nonobstant, les efforts de notre gouvernement et de nos forces armées de venir à bout de ces rebelles. Mais la MONUSCO elle-même, elle a reconnu déjà par la voix de ses responsables et qu'elle a pris conscience du fait que il y a des nouvelles méthodes.
Il y a des problèmes au niveau de l'exécution de son mandat.
Oui, de l'exécution de son mandat. Et nous avons également noté que les États-Unis ont pris une décision courageuse en reconnaissant le rôle négatif, par exemple, des ADF, qui sont désormais taxés comme des terroristes et donc comme l'émanation de l'État islamique. Tout cela, nous avons conscience de cela. Il y a deux problèmes. D'abord, un, ces forces négatives sont devenues pour la plupart des forces, j'allais dire, mercantilistes. C'est-à-dire qu'elles viennent, non pas seulement pour combattre, parce qu'il n'y a pas un pouvoir contre lequel elles puissent combattre, et parce que nous sommes un État démocratique, les élections produisent les institutions et les responsables appropriés, mais c'est plutôt ils veulent agir par la terreur, donc avec des buts mercantilistes, et même pour obtenir qu'une partie de notre territoire puisse être dépecée. Tout cela, le gouvernement en a conscience, et ça fait partie d'ailleurs de mesures prises souvent par le gouvernement au niveau des moyens. Les moyens de nos forces armées ont été multipliés de sorte que...
Monsieur le ministre, on va revenir tout à l'heure hein, dans ce que fait le gouvernement, peut-être en termes de réponse face à cette situation sécuritaire, à côté évidemment des efforts déployés par la MONUSCO. Mais en deux mots, dites-nous, est-ce que vous aussi, vous pensez que les populations qui demandent le départ de la MONUSCO ont raison ou pas?
Non, disons que il y a d'abord cette part de cet accord qui n'est pas toujours connu de l'ensemble de la population. C'est un devoir de pédagogie que d'expliquer cet accord de siège qui nous lie à la MONUSCO et de bien ouvrir l'œil pour voir que la MONUSCO n'a pas que un rôle négatif dans ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est un travail de pédagogie. Je pense que ça mérite des explications, de plus amples explications.
Que dit cet accord précisément, puisqu'on a un membre de la société civile qui fait partie des organisateurs de ces 10 jours de mobilisation contre l'insécurité?
Oui. Non, il s'agit de protéger la population, les populations, notamment les populations civiles qui sont traquées, si j'ose dire, sans raison valable. Et donc, il y a des viols, sans parler des exactions, autres exactions. Mais nous pensons que ce que fait la MONUSCO aurait pu bien être encore mieux appuyé.
Est-ce que le gouvernement congolais aujourd'hui est satisfait du travail de la MONUSCO dans l'Est et depuis sa présence à RDC?
Non, nous ne sommes pas totalement satisfaits. Nous sommes conscients de ce que c'est l'apport de la MONUSCO. C'est un apport qui est important, mais nous aurions souhaité, comme l'a reconnu le responsable de la MONUSCO elle-même, que cet effort auquel il fait recours maintenant, que cet effort fût engagé depuis longtemps. Mais qu'à cela ne tienne, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous pensons que cette fois-ci, vraiment, ils vont changer de fusil d'épaule et qu'ils vont vraiment rentrer dans les considérations qui ont guidé à la signature de cet accord.
Merci. C'est justement
la population. Nous comprenons donc la population qui est naturellement abattue par tout ce qui se passe. Et chaque jour qui passe, il y a des morts, des personnes qui sont victimes des atrocités. Tout cela ne peut laisser personne indifférent, surtout pas la population, les autorités. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, le chef de l'État a dit récemment qu'il allait effectivement s'installer à Béni,
comme annoncé pendant la campagne électorale. Mais merci beaucoup. Pardon de vous interrompre. On va revenir dans quelques instants pour continuer évidemment notre débat sur les promesses de la MONUSCO de changer sa stratégie pour mieux protéger les populations civiles de l'Est de la RDC.
Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir de la réponse sécuritaire de la MONUSCO à l'est de la RDC avec nos invités. Jolino Makelele, ministre d'État, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO en RDC. Et Ghislain Mouiwa, militant de la Lucha. C'est le mouvement citoyen lutte pour le changement. Il est à Goma. Monsieur Mathias Gilman, vous êtes là? Allô, Monsieur Gilman?
Oui, je suis là.
Voilà, vous avez écouté tout à l'heure les critiques qui ont été formulées à la fois par la Lucha et le gouvernement congolais. Vous-même, vous disiez que votre responsable a rappelé que chaque Congolais est libre de critiquer l'action de la MONUSCO, même de demander son départ. Pardon?
Absolument, oui.
Voilà, et même de demander son départ. Mais qu'est-ce que vous admettez aujourd'hui comme erreur majeure que vous avez commise depuis la présence de cette force en RDC et qui aujourd'hui vous coûte peut-être ce désamour avec la population, tout au moins, de l'est de la RDC?
Moi, je pense qu'il y a une confusion qui est parfois entretenue de manière sincère et parfois entretenue de manière moins sincère. Qui fait passer la MONUSCO pour une organisation qui aurait comme responsabilité de se substituer aux autorités et à l'État congolais. Nous travaillons avec une armée souveraine qui a engagé des opérations contre les ADF que nous avons soutenues, que nous soutenons de manière logistique, que nous soutenons en termes de renseignements. On partage les renseignements que nos équipements nous permettent d'avoir. Nous ravitaillons les troupes. Nous évacuons les blessés de l'armée congolaise, mais c'est l'armée congolaise elle-même qui est en première ligne. Alors ça ne veut pas dire que notre réponse doit être plus flexible et plus rapide. Nous déployons au plus près des populations qui sont touchées. Nous n'arrivons pas, effectivement, ça nous le reconnaissons, à empêcher toutes les attaques pour protéger les civils, mais c'est parce qu'il nous semble qu'il y a un travail de fond à faire, qui est la protection des civils. Vous savez, c'est à la fois protéger les civils qui sont sous menace directe des groupes armés, et c'est un travail qu'on essaye de faire. Évidemment, on est dans un environnement très compliqué et très complexe, mais c'est un travail qu'on essaye de faire, et je voudrais rappeler qu'il y a des centaines de milliers de Congolais qui sont protégés, qui passent les nuits auprès de nos bases, qui sont protégés par la MONUSCO. Dans la région de Béni, nous avons des défis particuliers, et il nous semble important de rappeler que pour arriver à régler la situation avec les groupes armés, il faut plus qu'une réponse militaire, il faut créer ce qu'on appelle un environnement protecteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aide l'autorité de l'État à avancer. Dans la plupart de ces zones, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas d'institutions judiciaires, et donc il y a des groupes qui se constituent, soit des groupes d'autodéfense, soit des groupes armés étrangers qui sont encore présents, et comme l'a dit le ministre tout à l'heure, ce sont des groupes qui sont des groupes de bandits en réalité. Il n'y a plus de revendications politiques derrière, donc ce sont des gens qui vivent de l'instabilité, qui vivent du chaos.
De l'économie à l'économie de la guerre, du conflit.
Exactement. Et c'est pour ça que nous disons, les gens peuvent manifester, les gens peuvent évidemment avoir... On est très attaché à la liberté d'expression, d'opinion et de manifestation pacifique, mais il ne faut pas oublier que les gens qui profitent de l'instabilité... Et ce sont effectivement les groupes armés et qu'il y a effectivement des complicités aussi au sein de la population pour maintenir cette instabilité parce qu'il y a des gens qui en vivent et qui ça leur permet de continuer les trafics, les pillages.
D'accord.
Donc il y a tout un travail de fond à faire aussi avec les autorités, mais ce sont l'autorité de l'État vraiment qui doit avancer pour qu'on règle le problème de manière pérenne.
Donc vous voulez dire que si vous ne parvenez pas à mettre de manière efficace votre mandat en œuvre, c'est la faute des autorités qui ne règle pas les préalables qui vous permettraient de le faire? Dans votre intervention tout à l'heure, vous parliez aussi des difficultés logistiques, d'un certain nombre de choses donc, qui relèvent de la MONUSCO et non des FRDC, si j'ai bien compris.
Absolument, je n'essaye absolument pas de remettre la faute sur qui que ce soit. Nous prenons nos responsabilités, nous devons être plus flexibles, plus rapides, et nous devons pouvoir nous déployer de manière plus rapide lorsque nous avons des alertes. Nous avons des systèmes d'alerte qui parfois fonctionnent, qui parfois ne fonctionnent pas. Donc je n'essaye pas du tout de mettre la faute sur qui que ce soit. Nous avons une responsabilité importante, mais nous ne sommes pas ici pour nous substituer à l'armée ou à l'État congolais. Nous sommes ici pour le soutenir. Et donc c'est un travail de partenariat. Et c'est dans un partenariat, eh bien, il y a des responsabilités qui sont partagées.
Merci. Ghislain Mouiwa, sur la réponse que vient de donner M. Guilman, qui tente d'expliquer pourquoi la MONUSCO a du mal à réussir dans sa mission de protection des civils.
Je pense qu'il faut que les agents de la MONUSCO ou les chefs enlèvent d'aller à façon de réfléchir ou cesse de croire que nous, la population, nous pensons qu'elle doit se substituer au gouvernement. Non, nous savons la responsabilité de la MONUSCO, nous savons bien les mandats de la MONUSCO, parce que c'est quand même un document qui est partagé partout et nous lisons, nous savons très bien le rôle de la MONUSCO. Et quand nous exigeons le départ de la MONUSCO, c'est parce que nous avons vu qu'elle n'est pas à mesure d'assumer sa responsabilité.
De manière concrète, M. Mouiwa, quels sont les reproches, de manière précise, que vous faites à la MONUSCO? Qu'est-ce qu'elle devrait faire et qu'elle ne fait pas?
Alors, il y a par exemple, quand vous arrivez à Beni, il y a des gens qui sont tués à côté des cas de la MONUSCO. Alors, nous savons que la MONUSCO a un mandat de protection des civils. Comment est-ce que vous pourrez dire que vous protégez les civils, alors qu'à côté de vous, on est en train de tuer des gens. Et ça fait quand même mal de continuer à suivre le discours sur les renseignements, nous fournissons des renseignements à l'armée. Et quand on rencontre l'armée, on trouve qu'il y a aussi un autre discours. Ça veut dire que, d'une certaine manière, la MONUSCO n'intervient pas parce qu'elle n'a pas de force ou pas parce qu'elle n'a pas de capacité. Et on voit qu'il y a une mauvaise volonté. Elle ne veut pas intervenir.
Pourquoi la MONUSCO refuserait d'intervenir pour protéger les civils si elle en a les moyens, si elle en a la capacité? Pourquoi, d'après vous, elle refuserait d'intervenir?
Non, mais nous avons appris très récemment comment est-ce que on fait plusieurs fois des discussions avec la MONUSCO et la réponse qu'elle nous a toujours donnée, c'est que il y a des exigences qu'elle a présentées au gouvernement et que le gouvernement n'a pas encore résolu. Et nous ne savons pas concrètement quelles sont ces exigences qui peuvent pousser la MONUSCO à accepter de laisser les gens être tués à côté et dire simplement qu'on attend que Kinshasa nous autorise pour que nous puissions agir. Et en voyant ça, nous nous disons, mais jusqu'à quand vous êtes à Beni? La MONUSCO à Beni, ça fait maintenant... Elle est à Beni depuis qu'on a commencé à tuer des gens. Et chaque jour, elle assiste à ces massacres. Mais elle n'est même pas sensible même d'intervenir pour que cette guerre puisse être finie. Nous voyons Merci. Aussi les efforts qu'émettent nos armées. Nous voyons ça. Et ce n'est pas que nous pensons que la MONUSCO peut être substituée au gouvernement. Donc, ce que nous voulons de la MONUSCO, c'est en tout cas son départ. Et quand il va quitter le Nord Kivu, quand il va quitter Beni, nous allons mettre le gouvernement sous ses responsabilités. Parce que d'une certaine
Donc,
manière...
Donc, à ce moment, vous pensez que vous aurez un seul intermédiaire, vous n'aurez plus la MONUSCO qui accuse le gouvernement de ne pas donner suite à ses exigences. Et là, au moins, vous saurez que vous n'avez plus que l'armée à qui vous adresser.
Et je pense que c'est ça même l'idéal. Et c'est bien si on a seulement le gouvernement, l'armée congolaise qui a béni, qui est en train de traquer les ADF, nous aurons un tel interlocuteur. Il ne va plus se justifier en nous disant que la MONUSCO ne veut pas nous appuyer ni de la manière
Merci logique beaucoup.
Ou qu'est-ce que ce soit, mais nous disons simplement que vous devez nous donner des réponses.
Merci
et
beaucoup.
La dernière chose, c'est
non, non, monsieur Mouioua, je suis désolée. Non. Et on va laisser le porte-parole du gouvernement. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous êtes sur place, je comprends, mais le débat doit être équilibré. Monsieur Makelele, est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot sur cette proposition de la société civile qui dit oui, nous préférons, comme il semble qu'il y a un jeu de ping-pong entre la MONUSCO et le gouvernement, que la MONUSCO s'en aille. Là, au moins, on sait que la seule entité responsable de la situation sécuritaire de l'Est, ce sont les FRDC.
Oui, je peux comprendre cette position, mais je dois vous dire aussi que nous sommes membres de cette communauté internationale. Nous avons des devoirs, certes, mais il y a aussi des obligations qui sont à charge de cette communauté internationale, notamment la protection de ces civils. Et donc, c'est pas gratuit, si j'ose dire. Ils viennent pas parce que s'ils viennent, c'est parce que ils ont l'obligation de venir en aide aux populations civiles qui sont massacrées de la manière que.
Mais face à l'échec observé et admis par la MONUSCO elle-même, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations se sentent protégées?
Nous allons prendre la MONUSCO dans ce qu'elle a dit et dans ce qu'elle propose. Lorsqu'elle dit qu'il y a des nouvelles méthodes de protection qui vont être envisagées, nous espérons qu'il y aura une sorte de travail commun qui devra être fait un peu plus davantage que par le passé entre nos forces armées, nos forces de renseignement et la MONUSCO. Parce que souvent, comme l'a dit le militant tout à l'heure, il est quand même regrettable que parfois les événements, des événements graves, se déroulent aux yeux et à la barbe de certaines unités de la MONUSCO. Et donc, nous pensons que pour le moment, dans la situation où se trouve encore notre armée en train de se réorganiser, le soutien de la MONUSCO n'est pas un soutien qui sera vain, mais c'est un soutien qui peut nous apporter, notamment en termes de renseignements. Mais c'est là où le bât blesse, c'est que ces renseignements, même lorsque la MONUSCO en dispose, et elle peut en faire usage de manière préventive, et sans que cela n'arrive, n'aboutisse à des actions contre la population émanant de ces seigneurs de guerre.
Monsieur Makelele, monsieur Mouioua parlait aussi de certaines exigences qu'aurait présentées la MONUSCO au gouvernement. De quoi s'agit-il précisément et ces exigences que la MONUSCO espérait le gouvernement voir réaliser pour agir efficacement?
Évidemment, vous pensez bien que c'est une matière qui relève de la sécurité intérieure. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes en concertation. À partir du moment où la MONUSCO elle-même a pris conscience de ce que les travaux qu'il fait sur le terrain ne rencontrent pas l'assentiment de la population et même d'une partie de notre forces armées et qu'il y a lieu de changer de braquet, nous avons pris acte de cela et nous allons voir comment reconfigurer l'approche militaire.
Merci.
Et de cet accompagnement de la MONUSCO. Mais ce qui est certain, c'est que nous tenons absolument à ce que cette mission soit effectivement une mission qui est là pour protéger les populations civiles. Et les protections, il ne faut pas attendre qu'il y ait un militaire congolais ou un policier congolais à côté pour protéger. Vous
Merci.
Pouvez protéger même en l'absence d'une force armée, d'une force militaire officielle ou de la police. Et donc, c'est là qu'il faut réorienter les missions de la MONUSCO.
Merci. Alors, M. Gilman, oui, vous avez promis de faire des changements. Vous dites que les populations congolaises n'ont pas toujours tous les détails qu'il faut pour apprécier votre travail. Mais ce mea culpa, quand même, ce n'est pas la première fois. On se rappelle qu'en 2016, on a eu également affaire à un mea culpa de la MONUSCO au sujet de massacres dans une localité appelée Miriki. Est-ce que finalement, à force de faire des promesses de réajustement sans les tenir, vous ne risquez pas de perdre complètement le bénéfice du doute que pourrait encore vous accorder cette population de l'Est?
Moi, je pense que, vous savez, il y a eu des difficultés. Ça fait 20 ans qu'on est dans ce pays et personne ne peut dire que notre travail a été parfait. Nous continuons à essayer toujours de nous améliorer, mais nous faisons face aussi à des menaces qui ont évolué. Par exemple, on entend souvent « Oui, pourquoi vous ne faites pas contre les ADF ce que vous faites, ce que vous avez fait contre le M23 que nous avons, dont nous avons interrompu l'avancée vers Goma ?» Eh bien, la réalité, c'est que le M23 et les ADF ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Les ADF sont un groupe qui se balade dans la forêt et qui tue expressément des gens au hasard la nuit avec des machettes pour casser la confiance avec la population, entre la population et les autorités, pour casser la confiance entre la population et nous. Et il est vrai que parfois, il y a des gens qui sont tués à la machette la nuit sans bruit, à quelques kilomètres de nos bases. C'est une réalité, mais encore une fois, nous on essaye d'ajuster la menace à chaque groupe armé, dans chaque différent type de combat qu'on doit mener. Et je voudrais rappeler que nous étions présents encore il y a 2 ans dans plein de provinces du Congo et qu'aujourd'hui nous avons un travail à finir simplement sur 12 territoires. C'est un travail très difficile, c'est le Merci. Plus difficile, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, mais on va continuer à travailler. Merci et nous beaucoup. Avons, nous sommes partis de plein de provinces du Congo.
On va revenir à vous dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Suite et fin de votre grand rendez-vous sur la MONUSCO qui a pris l'engagement de revoir sa stratégie pour mieux répondre à l'insécurité dans l'est de la RDC face à la colère de la population depuis début avril. Et nous en parlons ce soir avec Jolino Makelele, ministre d'État, porte-parole du gouvernement. Il est à Kinshasa et à Goma. Nous avons Ghislaine Mouya de la Lucha et Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO, à qui nous allons redonner la parole. Gilman, la chef de la MONUSCO, a donc pris des engagements. Madame Bintou Keïta a déclaré que les efforts seront faits pour mieux répondre à ce défi sécuritaire. Qu'est-ce qui va changer, très brièvement s'il vous plaît, dans les jours à venir pour donner un début d'espoir aux populations meurtries de l'Est de la RDC ?
Le Conseil de sécurité des Nations Unies nous a accordé 4 unités de réponse rapide. Donc ce sont des unités qui sont justement plus flexibles, plus rapides, qui vont permettre de réagir plus rapidement et d'être simplement beaucoup plus réactifs lorsqu'il y a une alerte. Nous travaillons dans des endroits, comme vous le savez, et notamment maintenant où les ADF ont été dispersés dans la forêt, qui sont très difficiles d'accès. Et donc on va adapter nos équipements, nos soldats qui seront mieux formés à ce type d'environnement pour justement pouvoir réagir de manière plus rapide, sachant encore une fois, je suis désolé d'insister sur ce point, que c'est l'armée congolaise qui est en première ligne et que c'est l'armée congolaise que nous sommes ici pour soutenir. C'est ça notre mandat de protection des civils aussi, c'est faire en sorte qu'on puisse bâtir une armée congolaise qui a déjà fait beaucoup de progrès mais qui a encore des lacunes sur lesquelles nous travaillons. Nous avons aussi commencer à construire des bases pour eux, pour que l'armée congolaise puisse s'établir de manière pérenne dans ces zones, parce que malheureusement, les gens ne sont peut-être pas conscients, mais l'armée congolaise a très peu de bases, n'a pas de casernes dans ces régions, et pour nous, il est très important qu'ils s'établissent de manière permanente pour que les groupes, une fois dispersés, ne puissent pas justement se regrouper et reprendre le
temps. Et pour revenir un mot juste vraiment sur ces 4 unités de réponse rapide, c'est-à-dire qu'elles n'existaient pas avant où elles ont été renforcées?
Non, ce sont des unités qui n'existaient pas. Bon, nous avions évidemment des contingents qui sont présents là, qui se déployaient par des bases temporaires qui étaient établies dans les régions où la violence armée était la plus forte. Mais là, ce sont des unités qui ont justement donc des capacités logistiques en termes de véhicules aussi, qui sont plus flexibles. Vous savez, nous avons par exemple des tanks, mais un tank, est-ce que c'est vraiment utile quand on travaille sur des routes qui ne sont pas faites ou qui sont beaucoup trop étroites? Donc là, on aura simplement des équipements qui nous permettront d'être plus rapides et d'arriver plus rapidement, de répondre plus rapidement aux alertes.
Et à quelle échéance les populations de l'Est devraient-elles voir des résultats significatifs en termes d'amélioration de la sécurité avec ces unités?
Ces unités sont en phase de déploiement. Elles seront toutes déployées d'ici le mois de juillet, mais elles sont en phase de déploiement. Il y en a déjà, il y a déjà une partie d'entre elles qui est opérationnelle. Maintenant, moi, comme vous le disiez tout à l'heure, faire des promesses qui ne seront pas tenues, ce n'est pas notre. On essaye d'avoir vraiment un langage de vérité. La situation est très compliquée et nous avons aussi besoin que de côté de nos partenaires congolais, eh bien, l'armée et les policiers soient payés, soient nourris, soient ravitaillés. De manière régulière pour éviter des problèmes de démotivation qui arrivent parfois lorsque justement les soldats sont laissés à eux-mêmes et ne sont pas rémunérés.
Monsieur Makelele, justement à ce sujet, il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place et on a aussi parfois reproché à certains hauts responsables de l'armée de détourner les primes des civils. Qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour que ce genre de situation n'arrive plus et peut-être pour agir véritablement dans le sens de qu'attendent les populations de l'Est?
Oui, madame. D'abord, il faut dire qu'à ce sujet, le gouvernement sortant, et puisque le chef de l'État, en tant que chef des armées, est toujours là, avait pris des initiatives. Des initiatives, vous avez entendu parler de modifications des structures de l'armée dans certaines zones sensibles où on a mis en place de nouveaux responsables de commandement et donc cela a commencé à donner des résultats. Donc nous pouvons nous-mêmes balayer devant nos portes et reconnaître que par le passé il y a eu ce genre de comportement de la part de certains aux responsables de l'armée et le président de la République a pris la mesure de cette difficulté et a procédé au changement attendu et même demandé par la population. Et pour le surplus, je dirais d'ailleurs d'abord que la MONUSCO, sa mission, c'est vraiment assurer la protection des civils et cette mission va jusqu'à la collaboration avec nos forces armées, collaboration au niveau des informations, au niveau des appuis militaires, mais aussi une adaptation. Nous voulons une adaptation aux formes, aux méthodes nouvelles des terroristes qui, lorsque la MONUSCO elle-même reconnaît que les terroristes ont changé de modus operandi, eh ben, il faut s'adapter à cela à partir du moment où on en prend connaissance. Et deuxièmement, nous devons absolument inviter aussi la communauté internationale à prendre ses responsabilités de manière un peu plus ferme. Dès lors qu'on désigne les ADF, par exemple, comme étant l'émanation de l'État islamique, nous connaissons le danger que peut représenter cette structure pour le monde entier. Nous devons absolument faire le nécessaire pour que, en termes de renseignement, l'État congolais soit assez documenté et aussi en termes militaires, la population soit sécurisée au maximum. Sinon, nous aurons toujours des exaspérations de la population comme on en voit maintenant. Merci. Et nous avons absolument l'obligation de protéger cette population à notre niveau, au niveau du gouvernement aussi.
Merci. Monsieur Mouiwa, avec toutes ces promesses, vous demandez-vous toujours le départ de la MONUSCO ? On me fait signe, malheureusement, qu'on a perdu M. Mouiwa. On va essayer de le joindre. C'est dommage, parce qu'on aurait bien aimé l'entendre sur ce que la société civile pense de cette promesse, de ces nouveaux engagements pris à la fois par la MONUSCO et le gouvernement congolais pour améliorer la situation, étant donné que ce n'est pas la première fois que de tels engagements sont pris. Donc, on l'a perdu. On me fait signe, toujours, il n'est toujours pas en ligne, et c'est dommage. Je vais donc me retourner vers vous, M. Guilman, en une minute pour terminer. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente avec les populations, que peut-être avec ces nouvelles mesures, il y aura un rapprochement dans un court délai avec les populations?
Comme je vous le disais, vous savez, il y a des situations différentes dans différentes provinces. Je vous assure qu'il y a des dizaines de milliers de Congolais qui, tous les jours, trouvent protection auprès de nos casques bleus. Nous avons une situation très difficile à Béni et on est déterminés à continuer à parler avec tout le monde, y compris avec les gens qui nous critiquent, pour que les gens comprennent bien ce qu'on peut faire, les limites de ce qu'on peut faire, et aussi l'idée centrale, c'est quand même que ce n'est pas la MONUSCO qui décide de rester. Le Conseil de sécurité et les autorités locales, nationales du Congo pensent que le Congo a encore besoin de notre assistance et de notre présence.
Donc ce n'est pas nous qui cherchons à nous accrocher à tout prix au Congo, c'est très important que les gens le comprennent. On est ici pour travailler avec la population et c'est vrai qu'on a besoin certainement de faire un meilleur travail pédagogique Merci. Auprès d'eux pour qu'ils comprennent qu'on est là avec eux.
En 30 secondes, M. Makelele, si on ne sent pas les efforts notables après cette promesse de la MONUSCO, est-ce que vous demanderiez, comme ce fut le cas sous Joseph Kabila, le départ de la MONUSCO, vous aussi?
Bon, nous ne pouvons pas préjuger de l'attitude que nous pourrions avoir sans avoir vu la MONUSCO de nouveau à l'œuvre en fonction des engagements et des orientations qu'elle est en train de prendre. Donc nous allons voir à l'œuvre, mais il y a des choses des symboliques qui parfois heurtent la conscience de nos compatriotes. Lorsqu'on voit souvent des véhicules de la MONUSCO circuler dans les grandes artères des villes, par-ci par-là, alors que dans l'arrière-pays, dans les coins les plus reculés, les gens sont en train d'être Merci. Tués. Parfois, aux yeux et à la barbe des gens...
Ça fait problème. Merci.
Ça fait problème. Ça
Merci
fait.
Beaucoup, Jolino Makelele, ministre d'État, ministre porte-parole du gouvernement congolais. Merci à vous, Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO en RDC, et à Ghislain Mouioua, militant du mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha, qui est à Goma. Et c'est dommage que nous n'ayons pas pu avoir son mot de conclusion. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.